Avec Stéphane Brizet, qui est présent en Suisse. Bonjour.
Bonjour.
Pour nous parler du dernier film que vous avez présenté à la Mostra, Hors saison. Vous nous aviez déjà habitué à ce genre de film plus intimiste avec Mademoiselle Chambon, Une vie ou Quelques heures de printemps. Et puis, il y a eu cette trilogie consacrée à l'univers du travail. Vous aviez besoin de retrouver un genre plus, peut-être personnel, plus intimiste ?
Ben, je fais des films, moi, avec pour comprendre le monde, pour mieux comprendre moi et pour mieux comprendre moi dans le monde. Et ce qui fait qu'à certains moments, les questions se sont concentrées autour de personnages confrontés à certaines souffrances sociales. Donc j'ai fait ces films-là. Et pour autant, je suis pas tout le temps le même homme. Il s'agit aussi de pas forcément devenir la caricature du réalisateur énervé de gauche. Je suis fait de plein de courants différents. Et le courant qui prédominait à ce moment-là de ma vie, c'était un courant plus introspectif et qui y avait nécessité de traduire autrement. Il y avait aussi comme l'envie, l'intuition en fait, de revenir à quelque chose de très essentiel, très archaïque, et qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel finalement que les questionnements autour de l'amour, ce qui est le cas dans ce film. Je connais pas, donc c'était à ce moment-là de ma vie la question centrale qui était en moi.
En filigrane, il reste un peu le monde du travail, puisqu'on ne va pas tout dévoiler du sujet, on laissera découvrir au public, mais votre protagoniste quitte une pièce de théâtre qui était en cours de répétition avant la première, et il est en questionnement personnel. Il traverse une crise existentielle, il est un peu en perte de repères. Et il se dit qu'une cure thermale lui fera le plus grand bien. Et en même temps, ça le confronte à beaucoup de questionnements personnels. C'est aussi la crise peut-être de la cinquantaine. Pour le protagoniste.
Mais même pour moi, c'est-à-dire que ce n'est pas une crise, mais c'est des questions qui se posent avec le temps qui passe. Mmh. Et cette question-là, elle habite tout le monde.
Elle est universelle.
Elle est très universelle, cette question-là. Et puis, je pense que... Alors, d'abord, ce n'est pas un film sur un acteur. Il se trouve que c'est sur un homme qui est acteur. Mmh. Et effectivement, cet homme très connu, donc Guillaume Canet, joue un acteur connu. Donc, il y a une forme de mise en abîme évidente. Et il a toujours rêvé de monter sur les planches, certainement pour se légitimiser dans sa propre histoire.
Et auprès de la profession, peut-être.
Auprès de la profession, auprès de lui-même. Et donc, mais à 4 semaines de la première, il se barre. Mais je pense, en fait, qu'il saisit quelque chose de très concret, c'est-à-dire il allait jouer une pièce, il se barre. Mais les questions sont beaucoup plus profondes que ça. Ce n'est pas juste une question de « j'ai eu peur de jouer cette pièce ». Je pense que ce gars-là, à ce moment-là de sa vie, il aurait été sur un long métrage, il se serait peut-être barré aussi. Et donc, il saisit quelque chose de très concret pour partir, parce qu'il n'a pas de mots dessus, mais en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il a quelque chose à résoudre. C'est quelqu'un qui a pu résoudre quelque chose dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a voulu devenir un acteur connu, célèbre. Il est devenu un acteur connu, mais pour autant, je pense qu'il n'a pas la sensation d'être devenu quelqu'un. Et donc, il s'exile. Donc, c'est quand même une illusion totale de penser qu'en partant une semaine en Thalasso, on va réparer quelque chose de sa psyché, quoi. Je veux dire, on peut réparer un mal de genou, mais pas plus que ça. Par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, il va retrouver
un amour du passé.
Et il y a plein de choses qui ressurgissent à ce moment-là entre cet homme et cette femme qui se sont aimés. Albert Horvacher, qui joue Alice. Et ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années. Ils se sont séparés. Leurs chemins ont bifurqué. Ils n'ont plus jamais eu contact ensemble. Elle a eu des nouvelles de lui parce qu'il est devenu connu. Et puis elle a disparu. Et elle est là. Et elle est avec beaucoup de renoncements dans sa vie.
Et puis on découvrira quand même que vous dites qu'ils se sont séparés. La réalité est un peu différente. Et des fois, on a des amours du passé qu'on a terminés de manière abrupte ou qu'on regrette peut-être d'avoir laissé.
Bah en fait, effectivement, je dis qu'ils se sont quittés, mais c'est plutôt lui qui s'est barré. Et ce qu'on constate, c'est qu'il ne s'est pas forcément barré de manière hyper élégante.
Voilà.
Ce qui arrive très souvent.
C'est
les mecs, on sait faire ça, nous, ne pas être élégants dans les séparations. Ça s'est passé comme ça. C'est deux. Bah, par contre, c'est pas un film de règlement de compte. C'est pas deux personnes qui sont restées ni elle ni lui sur une forme d'amertume. Elle est pas. Elle cohabite pas avec une. Avec
une
sa peine en bandoulière, parce que ça serait un peu pathétique d'une femme de 45 ans qui est depuis 15 ans avec sa peine en bandoulière. Les plaies se sont refermées, mais il se trouve que si on appuie dessus, ça peut faire un peu mal. Et c'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas un film d'antagonisme fort. Ce n'est pas un film de règlement de compte. C'est un film de grandes personnes où ils ont baissé la garde. Et ils sont à un moment, de toute façon, chacun, où ils sont arrivés finalement ensemble, synchrone, au bout de la logique qu'ils ont mise en place au moment où ils se sont séparés 15 ans auparavant. Et pour des raisons différentes. C'est-à-dire que chacun est allé avec un conjoint, une conjointe, réparateur, réparatrice. Elle est allée avec le médecin du coin. Qui l'avait récupéré en morceaux il y a 15 ans. C'est certainement le mec le plus gentil du monde. Elle est avec le mec le plus gentil du monde. Et il a eu cette fonction réparatrice. Mais 15 ans plus tard, le temps est passé. Elle est aussi à un moment de sa vie où il y a des questions ultra existentielles qui se posent, qu'on ne se pose pas à 30 ans, mais qu'on se pose à 45 ou à 50. Et lui, il est aussi à un moment de questions très existentielles qu'on connaît tous et toutes. Et puis, je crois qu'on vit tous et toutes, en tout cas, je pense que c'est quelque chose de très partagé, de vivre et de cohabiter avec des fantômes. J'ai le sentiment qu'on a tous et toutes quelque chose d'un peu... Un amour raté, un amour inachevé.
Quelques regrets.
Des regrets, quelque chose qui est quelque part, même si on peut avoir une vie et tout qui va bien, mais quelque chose qui s'est... c'était pas les bons mots au bon moment. Et des fois, on se dit, mais un tel, une telle, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et si je leur croisais, est-ce que j'aurais la même émotion? Et d'ailleurs, on l'a vu au moment où les réseaux sociaux ont surgi, Facebook, par exemple, il y a eu énormément de personnes qui ont recherché la trace de gens du passé.
Repris contact et créé des retrouvailles.
Parfois, parfois. Alors après, la grande question, c'est est-ce que il faut le faire? Ça.
Est-ce qu'il faut rester sur l'impression qu'on avait à l'époque?
Ouais, rester avec ce mystère de « et si ?» Et si ma vie avait pris ce chemin-là. Mais en tout cas, il est clair que ce qu'ils sont capables de s'échanger aujourd'hui, avec beaucoup de sérénité, parce qu'il y a une forme de fatigue, ils en étaient totalement incapables il y a 15 ans. Ça, c'est
peut-être
sûr.
Une maturité aussi.
Oui, mais le temps qui passe, heureusement que le temps qui passe, ce n'est pas seulement subir les désagréments de la peau qui s'affaisse devant le miroir. Sinon, ça serait bien triste. Heureusement que le temps qui passe peut nous permettre aussi d'être... peut-être plus clairvoyant, baisser la garde, être sur des choses plus ténues, plus essentielles. Peut-être que ça nous permet ça. Peut-être qu'il y a des défenses qui baissent la garde et qu'on se confronte à des choses plus profondes, plus essentielles, peut-être plus poétiques, plus... Voilà, qu'on s'autorise des fois l'introspection, de...
Stéphane Brisset, à quel moment vous avez fait le choix des comédiens? À l'écriture déjà?
J'y pense à l'écriture. Après, je fonctionne toujours par un peu en étoile, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la première personne qui est choisie, en l'occurrence c'était Guillaume Canet, et ensuite c'est qui va avec Guillaume Canet. C'est-à-dire que, effectivement, Guillaume Canet va interpréter un personnage, mais Guillaume Canet c'est aussi... Voilà, c'est un physique, c'est une vibration, c'est un émotionnel. Donc, qui je mets face à lui pour faire comprendre que l'histoire d'avant, il y a 15 ans, était cohérente, que l'histoire d'aujourd'hui fait sens. C'est plein de choses qui sont un peu rationnelles et beaucoup irrationnelles, qui n'ont à voir qu'avec une forme de ressenti. Après, il y a des choses, le personnage que joue Albert Rohrbacher, c'est un personnage qui est assez cousin, je dirais, du personnage de Mademoiselle Chambon. Et pour jouer ces personnages qui sont des femmes trop discrètes, des femmes sublimes, mais qui ont trop renoncé, eh ben, il faut de très grandes actrices. Parce que là, à ce moment-là, il s'agit de révéler finalement ce qui est volontairement pas écrit.
Une intériorité.
Une intériorité, une richesse, une densité. Et si je mettais quelqu'un de pas très intéressant, un peu une petite chose qui a un peu les pieds en dedans, elle serait immédiatement assez ridicule. Elle ne serait pas, ça serait pas très sexy comme couple de cinéma. On se dirait, mais bah, on s'en fout de cette nana, donc pourquoi il tomberait amoureux, enfin pourquoi il est tombé amoureux d'elle, pourquoi il y a un vertige à ce moment-là. Non, il faut quelqu'un qui porte l'histoire, les invisibles, la partie immergée de l'iceberg. Il n'y a que les grandes actrices et les grands acteurs qui sont capables de ça. Alba est une immense, immense, immense actrice avec une puissance émotionnelle rarissime. Et il fallait quelqu'un de ce niveau-là.
Avec un charisme.
Avec un charisme énorme pour, quand elle est face à Guillaume Canet, qui a tous les aspects de la réussite sociale, qu'il est devenu un acteur connu, ça fasse le poids. Elle fait le poids, très largement, mais autrement.
Alors, il y a deux personnes dont j'aimerais parler. Vous tenez un petit rôle dans le film, inattendu. Vous êtes le metteur en scène de théâtre, on le voit sur des photos, à un moment donné, et puis on l'entend surtout dans les messages téléphoniques. C'était prévu à l'écriture ?
Non, franchement, ce n'était pas vraiment prévu à l'écriture. Ça a toujours la vertu de coûter moins cher, de me mettre dedans. Peut-être que ça me faisait plaisir, en fait, parce que je laisse un message, comme le personnage de Guillaume, en fait, quitte lamentablement la pièce de théâtre dans laquelle il devait jouer.
Un mois de la première,
ce qui est quand même assez pathétique, mais qui est l'élément déclencheur, finalement, de son introspection. Moi, je lui laisse un message, donc je suis le metteur en scène. Et ce n'est pas un message énervé, c'est un message qui lui dit, en fait, t'es un petit mec, en fait. On ne fait pas ça, parce que tout le monde... d'une part, moi, j'ai rêvé. C'était ta première expérience au théâtre, et moi, j'ai pensé à toi. Je t'ai fait confiance. Et les gens qui allaient jouer avec toi, ils étaient heureux de t'accompagner dans cette première pour toi. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est un truc de petit mec. Bonne continuation. Donc, vraiment, je pouvais le faire. Et comme je pouvais le faire, ça coûtait moins cher que je le fasse que de prendre un autre acteur. Donc, finalement. On a fait comme ça. Et peut-être un tout petit peu d'ego de pouvoir voir mon nom. Non, voilà. c'est pas ça ce que je leur ai fait avant, sinon.
Voilà. Mais peut-être qu'on va vous retrouver dans d'autres rôles plus importants au niveau temporel, à l'écran. Il y a un autre personnage aussi très important qui marque un peu votre amour à votre région d'origine. C'est d'aller tourner en Bretagne.
Oui, alors ça, je n'étais jamais allé tourner en Bretagne. Je suis breton. Et avec cette déception, c'est qu'en fait, généralement, moi je suis né à Rennes, ouais. Et là j'ai tourné dans le sud de la Bretagne,
à
la baie de Quiberon, c'est dans le golfe du Morbihan. Et j'adore ce coin, j'y vais depuis pas mal d'années. Mais j'y allais pas quand j'étais petit, hein. C'est vraiment un truc de. J'avais une cinquantaine d'années, cet endroit. Mais j'ai eu une déception incroyable, c'est que quand on va en France, quand on fait des films, les régions nous aident. Il y a des financements de régions. Et de tous mes films, j'ai toujours un financement de région. Et je vais tourner en Bretagne, et je n'ai pas le financement de la Bretagne. Et je dis, tiens, c'est fou. C'est fou que j'ai eu un pincement. C'est pas un truc d'ego, c'est un truc de dire, c'est fou, j'étais tellement heureux de pouvoir... Je viens sur les terres, il y avait quelque chose comme ça. Et là, rien à foutre. On ne va pas t'aider à faire ton film. Et c'est marrant, j'y ai vu quelque chose d'assez... C'est psychanalytique, c'est-à-dire que c'est pas là d'où je viens qui m'a aidé finalement à faire les choses. Et ben ça continue, c'est-à-dire que même 40 ans après avoir pris la décision de faire quelque chose qui ne m'était pas forcément destiné au départ, c'est-à-dire faire des films, et ben finalement les bâtons dans les roues que je pouvais avoir au départ, ben, finalement 40 ans plus tard, c'est la même chose. À cet endroit initial, bon, bah, c'était c'est bien de le savoir.
Et puis c'était un protagoniste à part entière, c'est très poétique. Il y a une particularité du lieu.
Bah, je pense qu'il y a une poésie des stations balnéaires hors saison.
Qu'on a souvent inspiré le cinéma.
Ouais, ouais. Et moi, je cohabitais avec cette image depuis très très longtemps, de ces rues vides, alors qui, pour le coup, font aussi écho. C'était pas volontaire, mais je suis obligé de le constater. En tout cas, je l'ai ressenti. Aux rues vides qu'on a connues au moment du confinement. Il y avait quand même une forme d'étrangeté et de poésie à ça. Et les stations balnéaires, elles ont hors saison, elles ont cette, elles évoquent qu'il s'est passé quelque chose. Elles évoquent qu'il se passera quelque chose. C'est un moment où on a l'impression que la ville reprend son souffle.
C'est un temps suspendu.
C'est un temps suspendu qui est exactement le temps suspendu des deux personnages principaux.
On doit vous quitter malheureusement. Rapidement, la Mostra vous aime. Vous aimez la Mostra. Comment ça s'est passé à Venise ?
Ah, c'était extraordinaire. Et en plus d'aller à la Mostra, il y avait deux raisons. C'était avec les deux acteurs. C'était pour la première fois que Guillaume Canet allait dans un festival de catégorie A avec un premier rôle. Il m'a étonné quand il m'a dit ça. Je pensais qu'il l'avait fait 10 fois. Et non, c'était la première fois. Et d'autre part, d'y aller en Italie avec Alba Horvarer, qui est quand même une très, très grosse vedette en Italie. C'était hyper émouvant parce que Guillaume Canet, dans mon film, joue un acteur connu. Et Alba Horvarer, en France, n'est pas encore très connue. Donc ça colle, mais à Venise, c'était Alba Horvarer, actrice très connue, qui jouait le personnage pas connu. Et Guillaume, moins connu, jouait le personnage connu. Et finalement, ça marche aussi.
Grazie mille, Stéphane Brisé. Bon succès pour le film.
Merci infiniment.